Les colloques du Collège de France.
Nous avons commencé à faire des livres ensemble. Et pas seulement des livres, mais aussi des ouvrages, quelquefois des ouvrages uniques, des espèces de sculptures, des peintures-sculptures, avec un peu d'écriture dessus. Donc ça nous a bien plu à tous les deux. Donc on a fait ça assez abondamment. Et puis, nous avons fait des objets. Il a fait des peintures dans lesquelles il a utilisé des textes de moi. Et puis il a fait aussi, et ça me plaisait beaucoup, il a fait des objets, des espèces de sculptures, d'aménagements de peinture, dans lesquelles je mettais du texte. C'est toujours lui qui me proposait de faire ça ou ça. Je me souviens d'un jour où j'avais vu dans l'atelier de Pierre un tiroir qui était aménagé à l'intérieur, peint et avec un morceau de miroir, et ça m'avait beaucoup plu. Et alors là je lui ai dit, voilà, il y a une idée à creuser là. Alors il m'a donné ce tiroir que j'ai toujours, bien sûr, et puis nous avons fait un ensemble de tiroirs, un tirage de tiroirs, et ça a donné un texte qui s'appelle « Au fond du tiroir, le miroir ». Quelquefois, il a pris des textes que j'avais déjà écrits pour d'autres, et puis il a utilisé ça à l'intérieur d'un objet. J'en vois un ici que je peux vous ouvrir, si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est comme un petit théâtre de marionnettes. Donc, et on ouvre. Alors, c'est la reine de Saba vient faire ses adieux au roi Salomon. Donc, c'est un texte que j'avais déjà écrit, je ne sais plus pour qui. Et alors, avec des sculptures peintes, avec les miroirs par derrière. Et il avait un grand sens donc, de ces objets qui multiplient l'espace. Sur le travail du tableau dans l'espace, pas simplement l'espace qui est représenté, mais la façon dont le tableau même, l'objet, joue avec l'espace. Et il y a deux aspects, je crois, qui sont très importants. C'est premièrement l'utilisation des miroirs, parce que le miroir utilisé à l'intérieur d'un tableau fait que le tableau renvoie de la lumière, et il donne pas seulement l'impression de renvoyer de la lumière, mais il renvoie de la lumière. Et puis, évidemment, il va bouger. Ce qui est réfléchi par le tableau, l'envers de certains objets, comme dans ce petit théâtre, eh bien, selon la place exacte où on se trouve, ça va se transformer. Donc, c'est ce qui se passe toujours dans une sculpture, mais ça multiplie les effets à cet égard. Et donc, il y a cette utilisation des miroirs, et puis le problème du trompe-l'œil. L'ambiguïté entre l'objet et sa représentation. Par exemple, celui-ci, où il y a une branche de bois qui tourne, qui devient une spirale, ça fait une espèce de cible, et alors là, qui est entièrement peinte. Et le passage de l'un à l'autre est assez difficile à saisir. Donc ça aussi, ça donne à l'œuvre une ambiguïté spatiale, vous voyez, qui au fond est très proche de ce qui est cherché dans l'utilisation des miroirs. Alors tout ça naturellement m'intriguait et m'intéressait. Donc il était pour moi assez facile de répondre à ces sollicitations-là, lorsque c'était lui qui commençait. Il y a d'autres objets aussi auxquels je pense, des objets de la vie quotidienne qu'il transformait Et là aussi, ça m'intéressait beaucoup de voir ces objets qu'en général on ne regarde pas, qu'on utilise simplement, et puis qui sont l'objet d'une attention picturale tout à fait différente. Alors je pense à deux œuvres que nous avons faites ensemble, enfin auxquelles j'ai participé. C'est le couvercle de lessiveuse, là, bon, alors que j'ai appelé « Soleil ménager », et puis la planche à repasser, hein, pour laquelle, à partir de laquelle il a fait une grande gravure. Bon. Ça aussi, cette utilisation des objets du quotidien, ça me touchait beaucoup. Évidemment, c'est très lié à l'art du collage, ça, hein. De même que Braque et Picasso utilisaient des morceaux de journaux, et puis peu à peu, d'ailleurs, certains peintres ont mis des bouts d'objets sur leurs tableaux. Alors là, Pierre réalisait des espèces de pièges à espace avec ces deux éléments fondamentaux qui sont le trompe-l'œil et le miroir. Non, moi, j'aime bien que les artistes aient cette, disons, cette force d'âme, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas emprisonner dans une image d'eux-mêmes qu'on veut leur imposer. Ceux, justement, qui n'hésitent pas à explorer et puis explorer encore, alors ceux-là, bon, je me sens très à l'aise avec eux et ils m'apportent chaque fois quelque chose de neuf.
Dans ce canal où on était passé plusieurs fois, il avait remarqué là où les gens attachent en fait leur barque. Ils installent des pneus pour éviter que ça frappe contre leur bateau. Il avait donc pris en photo ça. Après, il les découpait et à partir de la structure de la photo, en fait, il conduisait en fait à la gouache un imaginaire autour de ça. Et ensuite, ce travail-là, il le donnait à Michel Butor, donc Vierge. Et c'est Michel Butor qui, en posant un titre et en posant une narration, en fait, en faisait une histoire. Ce que Michel Butor a appelé le train des pneus, en fait, c'est venu de ces images-là.
J'ai beaucoup voyagé. Mais il y avait des régions où j'étais jamais allé. J'étais allé en Afrique du Nord, donc en Égypte, et puis en Tunisie, Algérie et Maroc. Mais je n'étais jamais allé dans l'Afrique noire. Grâce à Pierre, je suis allé faire un voyage avec lui au Burkina Faso. Et ça a été l'origine de ce livre dont vous voyez toutes les planches, les unes à côté des autres. Au retour du Burkina Faso, Pierre a fait un certain nombre de gouaches. Il a fait deux séries, donc deux fois la même gouache ou à peu près. Et il m'a demandé de faire un livre avec ça. Nous avons fait donc un livre en deux exemplaires, et je crois que c'est très important, toutes les images étaient déjà faites avant que j'intervienne. Et ceci est quelque chose d'assez particulier, et c'est très caractéristique du siècle dernier et de celui-ci. Parce que, autrefois, le texte était absolument premier. Et l'artiste intervenait après. Et dans les religions monothéistes, tout tourne autour d'un livre. Chez les Hébreux, ça tourne autour de la Torah. Chez les chrétiens, ça tourne autour de la Bible, le mot Bible qui veut dire simplement livre. Et chez les musulmans, ça tourne autour du Coran. Alors, le texte est là, au milieu, au cœur de la civilisation, et un texte qui est déjà un texte écrit. C'est dans la Bible, c'est tout à fait extraordinaire. Sur le mont Sinaï, Moïse va trouver les tables de la loi. Et les tables de la loi ont été imprimées par Dieu. Elles ont été, le texte a été gravé dans la pierre par Dieu. C'est déjà une impression primitive. Alors, dans le Coran, c'est l'ange Gabriel qui dicte le texte à Mahomet, mais très vite, pour garder les choses, on a inscrit sur des tessons, sur des plaques de céramique, et puis peu à peu, le texte s'est établi, et ainsi de suite. Alors, dans toute cette civilisation médiévale, le texte est au centre, et le texte est à l'origine de tout. Le début de l'évangile de Saint Jean, c'est « au commencement était le Verbe », comme on traduit en général, et ça veut dire, au fond, ça veut dire « au commencement était le texte ». Dieu, si vous voulez, c'est le texte par excellence. Et à travers le texte, donc, toute la révélation passe. Et donc, dans la culture du médiéval, de ces trois grandes religions, le texte est au centre et autour, on va orner, célébrer, mettre des images qui vont devenir quelquefois des illustrations. Il y a beaucoup de textes du Moyen-Âge dans lesquels il y a des lettrines au début des chapitres, des lettrines très somptueuses quelquefois, qui au début sont, comme on dirait aujourd'hui, abstraites, mais à l'intérieur desquelles, peu à peu, il y a toutes sortes de figurations qui interviennent. À l'intérieur d'une lettre, il y a tout un paysage, toutes des personnages qui apparaissent et qui sortent du texte, qui illustrent alors exactement le texte. Illustrer, ça veut dire rendre plus beau, donner du lustre. Et les religions monothéistes se méfient beaucoup de l'image, parce que l'image, pour elles, c'est un reste du paganisme. Si on laisse trop de place à l'image, alors les dieux anciens reviennent. Et c'est tout à fait juste. Et par conséquent, l'image, elle est là uniquement pour servir le texte, et de temps en temps, elle va prendre des libertés, et ces libertés vont nous amener à un monde complètement différent. Avec l'invention de l'imprimerie, les choses vont complètement changer. Et on peut dire que notre culture va se transformer de fond en comble, et nous sommes encore à l'intérieur de cette transformation. Alors, dans mes relations avec les peintres, très souvent, je suis parti des images, parce que j'ai fait moi aussi un peu d'histoire de l'art, j'ai fait de la critique d'art, et dans la critique d'art, si vous voulez, on met un texte à côté de l'image. Et puis, il peut y avoir des livres à l'intérieur desquels il y a du texte qui est lié à l'image. Mais l'image était considérée souvent comme à la fois si précieuse et si dangereuse qu'il fallait l'encadrer. Il fallait lui mettre une petite prison pour qu'elle ne sorte pas de ses bords. Et il ne fallait pas non plus trop entrer à l'intérieur. Il ne fallait pas toucher les images. Et au bout d'un certain temps, après avoir écrit des textes à propos des images, et puis après avoir mis des textes en face des images, j'ai essayé de mettre des textes à l'intérieur des images. Et pour ça, il faut trouver des complices, parce qu'il y a beaucoup de peintres qui ne supportent pas ça. Qu'on intervienne à l'intérieur de ce qu'ils ont fait, à quoi il ne faut absolument rien changer. Alors, mais il y a des peintres qui veulent bien. Bon, Pierre était parmi ces peintres qui voulaient bien que j'intervienne à l'intérieur de ces images. Pour chaque artiste différent, c'est une aventure différente.
c'est quelque chose d'absolument, évidemment, passionnant, bon, très périlleux, mais passionnant. Et évidemment, il faut que les gens soient satisfaits les uns des autres. Donc, et il faut que les gens se fassent confiance. Et c'est extraordinaire dans cette aventure du livre d'artiste, c'est cette espèce de confiance qui est approfondie entre deux personnages. Ces gens, ils savent qu'ils peuvent y aller parce que l'autre sera capable de répondre et qu'il n'abîmera pas ce qu'il a fait. Au contraire, ça donnera quelque chose qui est encore plus intéressant. Alors, il y a une relation là tout à fait extraordinaire dans laquelle on fouille une imagination commune et on arrive à la constitution d'une personnalité commune, d'une nouvelle personnalité. Voilà. Voilà en gros comment ça se passe.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.